Bonsoir à tous. Sommet Angola RDC. Les délégations des gouvernements se sont rencontrées à Luanda, la capitale angolaise. Et 5 accords de coopération ont été signés en début de la semaine dans plusieurs domaines. Accords signés en présence des deux chefs d'État, Joseph Kabila et Eduardo dos Santos. La Banque africaine de développement marque sa présence en RDC. Son bureau de représentation a été installé mardi à Kinshasa. C'est le président de cette institution financière, le Rwandais Donald Kaberuka, qui a procédé lui-même à cette inauguration. Ce même mardi a expiré les deuxièmes délais de séjour au Portugal accordés par le Sénat au sénateur Jean-Pierre Bemba. L'intéressé souhaiterait rentrer avant le 15 septembre prochain. Voilà des faits marquants de cette semaine que nous allons débattre dans cette tribune de la presse. Et nous recevrons dans ces studios Dany Ndungidi du quotidien Uhuru, Désiré Bayeré, rédacteur en chef du journal Les Citoyens. Et au téléphone, nous aurons en direct de Luanda au Bas-Congo Patrick Kassong, directeur des programmes de la radio-télévision évangélique de Luanda. Bienvenue à tous.
Merci.
Avant de commencer cette émission, les auditeurs des Radio Capi n'entendront plus sur nos antennes la voix du colonel en retraite Jacques Ebenga. Notre expert militaire est décédé aujourd'hui à 1h du matin aux cliniques universitaires de Kinshasa. L'illustre disparu était un grand collaborateur de l'émission Dialogue entre Congolais. Radio Okapi tient à présenter ses condoléances les plus attristées à la famille du colonel Ebenga. Que son âme repose en paix et nous lui dédions cette émission. Signature lundi dernier à Luanda de 5 accords de coopération entre l'Angola et la RDC. Ces accords signés par les délégations ministérielles en présence des deux chefs d'État portent entre autres sur la question des frontières, l'immigration clandestine et l'exploitation du pétrole et des mines aux frontières entre les deux pays. Emmanuel Imbanda Lukenga était notre envoyé spécial à Luanda. Il nous parle des objectifs de ces accords.
Les documents vont permettre au Congo et à l'Angola de procéder à l'exploration et l'exploitation du pétrole et des mines dans les zones frontalières des deux pays. Ces documents, selon le ministre congolais Bendido Kadiro, vont permettre à ce que les dividendes générés par cette exploration et exploitation pétrolière soient partagés à raison de 50% pour chaque partie. Pour Mende Omalanga, les effets pourront commencer à se faire sentir dans au moins un an. L'accord de Luanda sur la construction civile et travaux publics pourront permettre la construction d'une autoroute reliant Luanda Kabila en passant par Soyo. Par ailleurs, les parties congolaises et angolaises ont convenu de recourir aux anciennes puissances coloniales pour la délimitation des frontières, ceci non seulement à Kayemba mais sur l'ensemble des frontières des deux pays. En ce qui concerne les immigrations clandestines, le président angolais a sollicité une action commune des deux côtés des frontières. Luanda, Emmanuel Imbanda Lukenga Lukitindi, Radio Okapi.
Commençons avec vous, Désiré Bayeré. Vous êtes rédacteur en chef du journal Les Citoyens. Avec tous les contentieux de ces derniers temps entre l'Angola et la RDC, différents frontaliers à Kayemba, expulsion des Congolais de l'Angola, peut-on dire que la rencontre entre les délégations des deux pays a calmé les jeux, a tout de même apaisé les esprits surchauffés?
Oui, je pense que c'est le cas de le dire. Hein, ça a permis quand même une certaine décrispation entre les deux gouvernements et surtout entre les deux peuples qui sont condamnés à vivre ensemble. Mais au-delà de ça, je pense qu'il faut voir tous ces accords qui ont été signés pour savoir si réellement le peuple en sera le bénéficiaire. Parce qu'on va exploiter les mines, on va exploiter les pétroles, mais tout à l'heure, le reportage de votre consoeur disait que le ministre a dit que c'est 50% des recettes, mais les 50% qui vont revenir à l'État congolais, est-ce que cela va profiter à la population? C'est ce que nous attendons réellement. Parce que je pense qu'aujourd'hui, ce qui importe dans tous les accords qu'on signe avec différents gouvernements et différentes institutions, il faut toujours que la part de la population soit reconnue et soit visible.
Oui, nous allons revenir sur ces accords. Dady Ndungidi, vous êtes journaliste au quotidien Uhuru. Kourou. Est-ce que vous pensez que la rencontre Joseph Kabila, Eduardo Dos Santos et les concertations entre les délégations des deux pays aient éclairci les relations congolo-angolaises dont l'atmosphère paraissait un peu lourde à la suite de ce qui se disait autour de l'affaire Kaemba et directement des Congolais d'Angola?
Oui, je pense que la rencontre entre les deux parties intervient à un moment clé, crucial, dans la mesure où, vous le dites si bien, il y a l'affaire Kaemba qui décrit la chronique. Si ça a pu éclaircir le ciel, comme vous le dites, entre les deux pays, je pense que sur le plan interne, il y a encore des divisions. On sait que l'Assemblée nationale et le gouvernement sont opposés à ce sujet. Et ensuite, les Angolais n'ont pas reconnu ce que l'Assemblée nationale a dit. Il y a occupation angolaise. Mais on peut se réjouir du fait qu'ils ont accepté le principe d'une commission mixte avec le recours des anciens colonisateurs. Ça, c'est une bonne avancée. Mais il faut que cela soit mis effectivement en marche, qu'il y ait une commission mixte avec les anciens pays colonisateurs et que la vérité puisse enfin éclater. Donc, pour répondre à votre question, oui, ça a calmé un peu le jeu, mais on est loin d'avoir élucidé cette question.
Ok, Patrick Kassong, vous êtes chef des programmes de la radio-télé évangélique de Mwanda. J'espère que vous avez aussi suivi le traitement du dossier Kaemba à l'Assemblée nationale.
Oui, effectivement.
Oui, dans l'une de ses recommandations, dans cette affaire dite Kaemba, l'Assemblée nationale congolaise a dû recommander la constitution d'une commission mixte Angola-RDC qui pourra bénéficier de l'expertise des ex-puissances coloniales pour lever tout équivoque sur ces différents frontaliers. Dans sa déclaration, le président angolais a dit que son pays s'inscrivait dans la même logique. Est-ce qu'on peut dire que l'Angola, pour l'instant, a refusé les cadeaux, entre guillemets, lui offerts par les gouvernements congolais qui lui avaient déjà clos ces dossiers, estimant que les villages guerrillés étaient angolais?
On pourrait dire oui, parce que la commission de l'Assemblée nationale, elle, a fait un travail qui vraiment est tombé à point nommé. Elle est descendue sur terrain, c'est elle qui a palpé du doigt, si vous voulez, toutes les réalités, tous les contours, allant du septième parallèle et visitant toutes les bornes. Donc, l'Angola, si Eduardo acceptait aussi facilement la résolution du gouvernement de Kinshasa, vraiment, il y aurait eu beaucoup, beaucoup de discussions tout autour, et même cela entacherait le crédit de l'Angola, qui, comme vous le savez, est un partenaire privilégié de la RDC. Donc, pour moi, c'est vraiment sage que la proposition de l'Assemblée nationale ait été acceptée et que cette commission mixte, finalement, pourra bien entrer en exécution, bien entendu, avec le concours des anciens colons. Donc, Eduardo a bien compris le jeu. Il ne pouvait pas accepter si facilement, entre guillemets, comme vous l'aviez si bien dit, ce cadeau qu'on lui offrait peut-être d'une façon un peu distraite, comme ça, par le gouvernement.
Et Désiré Bahiré, en acceptant tacitement la constitution de cette commission mixte, vous trouvez que le président angolais a refusé, parce que c'est un cadeau, entre guillemets, comme nous le disons, lui offert par les gouvernements, qui disaient déjà que ces villages appartenaient ou appartiennent à l'Angola.
Oui, mais je pense que cette commission est une très bonne chose parce que ça pourra nous permettre d'éclaircir un peu la situation qui paraît un peu floue de ce côté-là. Nous autres qui ne sommes pas du coin, on a du mal à comprendre. Personnellement, j'ai déjà eu à traverser cette frontière de Kaemba jusqu'à Lunda Norte, mais les populations qui vivent là-bas, on ne peut pas sentir que c'est vraiment de part et d'autre des étrangers, si on peut le dire. Mais ils se considèrent toujours comme un peuple. Vous avez les Tchoukos du côté de Kaemba, mais les Tchoukos aussi du côté de l'Angola qui parlent la même langue, qui fréquentent la même rivière et qui font presque tout ensemble. Maintenant, ça c'est un problème de politiciens et je pense que c'est un peu prudent et même malin du côté angolais de trouver cette solution-là, pourvu que une fois de plus, on puisse... vous savez, les Kinois, ils disent... si vous permettez l'expression, on consomme du
cartouche.
Un tout petit peu, c'est là que peut-être l'Angola veut nous amener à ce niveau-là. Et peut-être que la RDC aussi a compris les jeux, mais maintenant, c'est un problème de malin à demi. Alors, celui qui sera malin à demi pourra peut-être gagner.
Ouais, Dany, votre commentaire?
Oui, je crois qu'avant la mise en place de cette commission, il est important pour le gouvernement et l'Assemblée nationale de se mettre d'accord. Parce qu'on ne peut pas aller sur le plan international tant que sur le plan national, on ne se met pas d'accord.
On est divisé.
On est divisé. Nous avons dit que les villages appartiennent à l'Angola. L'Assemblée nationale dit le contraire. Alors, maintenant, si le cas échéant, on devait porter l'affaire à la Cour internationale de justice, mais c'est l'Angola qui aura raison parce qu'il va se dire, sur le plan interne d'abord, ils sont divisés. Alors, avant la mise en place de cette commission, comme je l'ai dit tout à l'heure, il est important que le gouvernement, disons les institutions du pays, se mettent d'accord pour parler un même langage. Face peut-être au Portugal, comme on l'a dit, à la Belgique, qui vont nous assister pour mettre fin à ces différents contacts.
Oui, on ne quitte pas Kaema, nous sommes sur ce sujet-là. Le président angolais a dit, je cite, il est nécessaire d'éviter la confusion délibérée et de démasquer la manipulation que font certaines personnes. Dos Santos va plus loin en affirmant que ces personnes agissent de manière à créer l'intrigue et la méfiance, avec pour objectif de perturber les bonnes relations existantes entre l'Angola et la RDC et le fonctionnement même de ces institutions. Et d'après vous, Désiré, quelles sont ces personnes visées, ou plutôt à qui le chef d'État angolais fait-il allusion?
Ben moi, je crois que le chef d'État angolais profite un peu de la zizanie qui règne dans le pays, hein, comme les consoeurs disaient tout à l'heure. En fait, l'Assemblée nationale, d'une part, et le gouvernement, d'autre part, qui ne sont pas d'accord sur la vision de choses. Moi, je crois que peut-être le gouvernement angolais essaie un peu d'insinuer cela. Parce que vous savez, aujourd'hui, bon, les députés ils peuvent se livrer un spectacle comme ils le font, mais jusqu'à refuser même ce que les géographes ont vu, ont témoigné. Mais je pense que là, ça montre un peu la zizanie qu'il y a au niveau du fonctionnement des institutions de notre pays. Et ça, l'Angola fait allusion à cela.
Patrick Kassong, vous êtes directeur des programmes de la radio-télé évangélique de Mwanda. Par rapport à la déclaration du président angolais, qui pense qu'il est nécessaire d'éviter la confusion délibérée et de démasquer la manipulation que font certaines personnes. Est-ce que vous avez un commentaire à qui ce message est destiné?
Ben, ce message, bien entendu, est destiné aux politiques congolais. Comme vous le savez, nous avons beaucoup d'affinités avec les Angolais et même des contacts privés entre hommes politiques. Et tout ça, ça joue sur tous les plans quand il y a des différends entre ces deux pays. Et là, quand Edouard dit qu'il y a des personnes qui viennent pour toucher le feu, afin que, au final, eh bien, que les deux gouvernements deviennent antagonistes, eh bien, là, il faut vous revoir dans toutes les deux familles politiques que nous avons entre l'opposition et bien que la majorité, il y a aussi des tensions entre elles. Donc, dans tout ça, il faudrait que le politique congolais comprenne qu'ils doivent converger ensemble, la majorité et l'opposition, pour le bien fondé de notre nation. Sinon, s'ils ne marchent qu'avec cette conduite qu'il y a eu dans les gouvernements précédents d'intérêts personnels, eh bien, on trouvera toujours des grandes faiblesses dans les politiques congolaises.
Dany, vous êtes, je rappelle bien sûr, vous êtes journaliste au quotidien Uhuru. Il n'y a pas eu seulement dossier Kaema, refoulé d'Angola traité à Luanda. Il y a eu aussi exploitation du pétrole et des mines, des diamants, infrastructures à construire. Au sujet du pétrole, par exemple, le partage sera équitable, les revenus moitié-moitié. Vous avez un commentaire?
Oui, je pense que c'est une grande avancée pour la RDC, surtout que ça fait plusieurs années que l'Angola a exploité seul ce pétrole-là. Il y avait un traité qui était là, mais qu'on n'avait jamais ratifié. Mais comme on vient de le faire, et comme avait dit mon confrère tout à l'heure, j'espère que les dividendes de cette exploitation du pétrole dans la zone d'intérêt commun entre la RDC et l'Angola pourra effectivement permettre l'accroissement notamment du budget, notamment du pouvoir d'achat de la population, qui serait un impact réel sur la population, non seulement de cette partie du pays, mais sur toute l'étendue du territoire.
Oui, Désiré, un petit commentaire, les revenus moitié-moitié, ça ne vous inspire pas confiance?
Oui, bon, mais c'est sur papier, hein. Nous allons voir maintenant sur terrain comment cela va se traduire. Mais tout ce que je voulais juste signifier ici, c'est que quand on fait de l'exploitation, il faut tenir compte aussi de l'environnement. Je pense qu'on pourra construire des écoles et des hôpitaux pour les populations qui sont riveraines et de là où on va exploiter tous ces matières.
Tribune de la presse, retour sur les faits marquants de la semaine. Je vous rappelle que dans ces studios, nous avons Désiré Baéré, rédacteur en chef du journal Les Citoyens, Dany Ndungidi du quotidien Uhuru au téléphone. Nous avons en ligne Patrick Casson, le directeur des programmes à la radio-télé évangélique de Mwanda au Bas-Congo. Deuxième sujet de cette tribune de la presse, les bureaux régionaux de la BAD, Banque africaine pour le développement, a été inauguré mardi dernier à Kinshasa. L'installation de ces bureaux doit non seulement permettre à cette banque de renforcer la coopération avec les acteurs du développement du Congo, mais aussi un rapprochement avec ses clients. C'est la déclaration du président de la BAD lors de la cérémonie d'inauguration de ces bureaux. Écoutons Donald Kabiruka au micro de René Capita.
La banque a fait ce choix stratégique en vue d'accroître l'efficacité et l'impact de ses interventions dans les différents domaines. La nouvelle représentation régionale devrait permettre une gestion et un suivi régulier du portefeuille des projets et programmes dans les deux pays, des montants consolidés d'environ 500 millions de dollars américains, qui fait le deuxième à l'importance de Guichefast après celui de l'Éthiopie. Son portefeuille comprend au total 16 projets dans le secteur de l'agriculture et des infrastructures telles que l'eau et l'assainissement. C'est un portefeuille qui se caractérise par sa jeunesse et un niveau de performance exigeant et suivi de proximité, particulièrement nécessaire dans le cas des pays dits fragiles comme les deux Congo.
Patrick Casson, avec l'installation du bureau de représentation de la BAD à Kinshasa, est-ce que l'honneur que l'on fait à une bonne élève qui est devenue la RDC, qui, selon les ministres des Finances, est en règle financièrement avec cette institution?
Oui, vraiment, c'est un grand honneur que l'on fait à notre pays et cela prouve combien que le gouvernement d'Ivenga cherche vraiment à changer les choses. La BAD, comme vous le savez, a pour la République démocratique du Congo une grande estime, mais là, elle accepte de venir plus près de la RDC pour rapidement concrétiser ses projets, notamment l'agriculture et les infrastructures. Donc, pour nous, vraiment, c'est une fierté et c'est bien mérité par rapport à toutes les avancées qu'on a depuis la transition jusqu'à aujourd'hui.
Oui, Patrick, mais d'aucuns pensent que c'est une récompense personnelle de M. Kabiruka qui, lors de son élection à la tête de la BAD avait sollicité et obtenu la voix de la RDC. C'est ainsi qu'il paye une dette morale. Est-ce aussi votre avis?
Je pense pas. C'est vrai qu'il y a ce principe qui voudrait que l'on soit reconnaissant quand on est soutenu d'une façon ou d'une autre. Mais là, au moins, c'est par rapport à ce thème dit les pays dits fragiles. Si on reconnaît que la RD Congo et le Congo Brazza sont deux pays fragiles, ben pourquoi pas commencer par chez nous?
Ok. Dany, vous êtes journaliste au quotidien Uhuru. Au-delà des raisons avancées par Donald Kabiruka, qu'est-ce qui peut encore motiver l'installation du bureau de la BAD à Kinshasa?
Je pense que l'installation de ce bureau répond à un besoin évident sur le terrain, parce que, comme vous le savez peut-être, la RDC est le deuxième pays bénéficiaire de l'aide de la BAD. Donc c'est une telle question, ce n'est que normal que l'on puisse ici installer un bureau régional. Et c'est un accord qui avait déjà été signé à Tunis, je pense, c'était à l'époque du ministre Kita. Alors c'est une politique de proximité pour la BAD. Ça permet d'être beaucoup plus près des bénéficiaires, de mettre ensemble avec le gouvernement congolais des stratégies de développement. Et je pense que c'est aussi bien pour la BAD, pour l'intégration régionale, parce que la RDC est quand même au centre, c'est un bureau qu'il faut le rappeler, c'est pour toute l'Afrique centrale. Et la RDC qui est au centre ne pouvait qu'accueillir l'ouverture de ce bureau.
Oui, mais l'installation du bureau mise à part, il y a aussi deux protocoles d'accord signés, l'un des 105 millions de dollars américains pour un projet d'eau et d'assainissement, et l'autre de 22 millions de dollars américains pour la réinsertion socio-économique des démobilisés. Et la BAD promet même que l'enveloppe allouée à la RDC de 450 millions de dollars sera augmentée et dépassera 500 millions de dollars américains dans 3 ans. Est-ce que vous avez un commentaire?
Oui, je pense qu'avec cet accroissement de l'aide de la BAD, on sent que la RDC redevient petit à petit crédible avec les élections qui viennent de passer, la stabilité des institutions, le pays est à nouveau fréquentable. Donc ce n'est qu'une bonne chose pour le pays. Et je peux même ajouter que la BAD, au-delà de ce que vous venez de dire, il y a également trois projets agricoles dans les deux Kassai, au Katanga et puis dans le bassin du fleuve Congo. Donc on sent qu'avec cette venue de la BAD, ça va inciter aussi d'autres investisseurs à venir pour
le
développement.
Ben, le président de la BAD lui-même a fait cette demande auprès des autres bailleurs de fonds.
Ok, donc voilà, donc je pense que la Banque mondiale était déjà là, le FMI, donc ce n'est que normal, c'est la BAD qui soutient aussi la RDC, soit ouvre un bureau.
Oui, alors Désiré, si les deux accords représentant un montant de 127 millions de dollars américains sont applaudis, il n'est pas question de l'idée de la Banque africaine de développement de relancer les activités minières à Tenke Forum au Katanga. Il y a certaines organisations non gouvernementales qui ne sont pas d'accord et les dénoncent. En quoi cela fâche-t-il ces organisations non gouvernementales?
Bon, je pense qu'il faut peut-être aussi lire le passé, hein, comment dans le passé ces mines-là ont été exploitées, hein, notamment à Tenke Forum, mais j'ai aussi passé par là, c'est un grand village, mais on trouve des mines partout. Ces contrastes-là, ça m'a toujours frappé. Mais je pense que quelque part, la BAD pourra aussi investir dans ce secteur. Je pense qu'il faut quand même qu'on mette d'abord de l'ordre au niveau de la loi, au niveau des lois, au niveau des contrats qui existent, pour qu'on puisse voir très clair et pour savoir aussi qu'est-ce que la population en tire comme bénéfice. Vous savez, le problème des mines, l'exploitation minière au Congo, ça intéresse maintenant tout le monde. Tout le monde commence à dénoncer le fait de l'exploitation illégale des ressources minières au Congo. Et je pense que c'est une très bonne chose. Et là aussi, si la BAD vient aussi dans ce secteur, bon, ces ONG peuvent réagir comme elles réagissent, mais il faudra quand même qu'on accepte tous les investisseurs pourvu que ça profite à la population.
Quelque part là, elles estiment qu'il faut peut-être attendre les conclusions de la commission chargée des révisitations des contrats miniers. Il faut attendre que ces conclusions-là soient données et par après, la banque pourra songer à investir dans ces données-là miniers.
Oui, bien sûr, c'est pour ça que je disais qu'il faut d'abord mettre de l'ordre avant qu'on accepte tout investissement dans ce secteur-là. Parce que par le passé, il y a eu quand même beaucoup d'abus, jusqu'hier d'ailleurs, hein, parce que jusqu'à un passé très récent, il y a eu juste une clique, un groupe de gens qui profitent de tout cela. Et maintenant, il faudra quand même qu'il y ait de l'ordre, qu'on voit très clair dans tous les contrats qui sont signés, que ce soit par des particuliers, que ce soit par des organisations internationales, que ce soit par des investisseurs de tout genre, mais qu'on voit quand même de l'ordre sur ce qui existe avant de continuer.
Oui, Patrick, je pense que vous êtes toujours en ligne. Oui, et d'après vous, qu'est-ce qui fâche ces organisations non gouvernementales qui s'opposent à l'intéressement de la BAD à Tenke Forum?
Ben, je ne sais pas sur quel argument leur refus est-il fondé, mais d'autant plus que la BAD qui vient et qui pense, comme viennent de dire les confrères, à relancer Fongourmé avec une enveloppe de 100 millions de dollars, ben, je pense que c'est déjà intéressant. Tout dépendra, moi je trouve que tout dépendra du sérieux avec lequel les ministères comme celui des mines doivent s'investir pour bien entendu définir tous les principes, les tenants et les aboutissants afin que nous puissions réellement profiter de Fongourmé et surtout du soutien de la BAD. Ces ONG, peut-être qu'elles aussi voudraient peut-être avoir une part de marché, mais ben, tout dépendra du contact qu'ils auront avec le ministère.
Et alors, Dani, est-ce que vous vous êtes opposé à cette idée-là de la banque de relancer les activités à Tenke Forum?
Non, on ne peut pas être opposé à toute idée visant au développement du pays. Je pense que ces ONG, tout en s'opposant, ont leur vision des choses, ont leur opinion. Mais cela démontre ici, il faut le dire, la crise de confiance qu'il y a envers les autorités, envers le gouvernement, qui viennent avec des partenaires, les sociétés s'installent dans les régions et on n'en voit pas les retombées. Depuis le débat qu'on avait ici, quand on parlait des hydrocarbures par rapport aux signatures des accords avec l'Angola, tout ça, il faut c'est quand un investisseur vient, on peut sentir les retombées sur la population d'abord environnante et puis par après peut-être sur le plan national. Mais quand on ne voit pas ça, ce n'est que normal que les ONG puissent se rébeller, si je peux dire ainsi, par rapport à la ville de la Banne. Mais on ne peut pas être contre un projet de développement du pays. Laissons d'abord la BAD, si elle veut nous aider, parce qu'elle veut nous aider, c'est sûr, laissons la BAD travailler et on verra après.
Est-ce qu'il n'y a pas d'angouille sur roche par rapport à ces projets-là?
Non, il ne faut pas toujours voir le mauvais côté des choses quand il y a des investisseurs qui viennent. Les investisseurs, quand ils viennent, en principe, on doit, comment dire, le code des investissements doit être clair par rapport à tout ça. Il faut que quand vous veniez, que vous puissiez également, pour la population environnante, créer des projets de développement, la construction des écoles. On ne demande pas beaucoup. On demande c'est peu de choses par rapport à ceux qui retirent de notre pays. Alors, c'est cette frayeur-là de voir encore une nouvelle fois un investisseur venir et prendre tout ce qui nous appartient à partir avec, alors que nous, on ne bénéficie de rien. C'est ça.
Vous suivez Tribune de la Presse, le retour des faits marquants de la semaine. Je vous rappelle que dans ces studios, nous avons Désiré Baéré, qui est rédacteur en chef du journal Les Citoyens, Dany Ndungidi, du quotidien Uhuru, et au téléphone, nous avons en ligne Patrick Kassong, directeur des programmes de la radio télé évangélique de Mwanda Obakongo. Troisième sujet de la Tribune de la Presse. C'est mardi 31 juillet dernier qu'a expiré le délai du séjour de Jean-Pierre Bemba au Portugal, séjour lui accordé par le Sénat. Selon les rapporteurs adjoints de la Chambre haute du Parlement, Lola Kisanga, même si Jean-Pierre Bemba ne rentre pas aujourd'hui, cela n'affecte en rien sa qualité de sénateur. Il estime que les questions liées à sa sécurité ne sont pas encore résolues. Jean-Pierre Bemba peut autant des fois qu'il le souhaite solliciter une prorogation de son séjour. Écoutons Lola Kisanga, joint par Jocelyne Moussaou.
J'estime, au nom du bureau du Sénat, que l'expiration de ce délai librement demandé par l'intéressé ne peut aucunement affecter ni son mandat, ni sa qualité. Le sénateur Jean-Pierre Bemba peut rentrer quand il veut et s'il souhaite que le Sénat lui accorde une autre autorisation au terme d'attestation pouvant couvrir son séjour, si son séjour l'exige, rassurez-vous que le bureau du Sénat ne peut pas le refuser. Parce que, au terme de l'article 109 de la Constitution, de la République, les sénateurs comme les députés nationaux ont le droit de circuler sans entrave ni restriction sur l'ensemble du territoire national et d'en sortir. De ce point de vue, au niveau du Sénat, nous avons juste à exhorter le sénateur Jean-Pierre Bemba ainsi que tous les autres sénateurs qui sont en déplacement, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays, d'observer les dispositions réglementaires à ce qui concerne leur travail de sénateur.
Dany Ndungidi, vous êtes journaliste au quotidien Uhuru. Avec cette position de Lola Kisanga, le journal L'Avenir d'hier estime qu'une fois de plus, le Sénat vole au secours de Jean-Pierre Bemba. Est-ce, vous pensez aussi que le Sénat est en train de tirer les draps du côté de Bemba?
Bon, même si le Sénat tire les draps du côté des Bemba, ça fait partie de la solidarité parlementaire, comme disent les députés et les sénateurs. Mais je ne pense pas, comme l'a dit M. Lola Kisanga, les sénateurs peuvent circuler partout, surtout qu'ils sont en vacances parlementaires. Alors Jean-Pierre Bemba pourra rentrer quand il veut, et c'est son pays, il est un leader, il a été second au deuxième tour de l'élection présidentielle, c'est quand même une grande personnalité politique du pays. Donc le fait de rester au Portugal ne lui enlève en rien, jusque-là, parce que le règlement est clair après avoir été absent hein, pendant un délai assez long, je crois, trois quarts des sessions ordinaires, quelque chose comme ça.
Depuis que le Sénat est là, il n'a jamais pris part aux séances.
Oui, mais il n'a pas encore été à la limite fixée pour perdre son mandat de sénateur.
C'est laquelle, cette limite-là?
Bon, je n'ai pas les informations exactes, mais je crois que c'est trois quarts d'une session ordinaire, quelque chose comme ça. Mm-hmm. Donc jusque-là, il est dans les temps. Donc il peut rentrer, mais comme ils sont en vacances parlementaires, il a encore le temps. C'est le 15 septembre que l'élection ordinaire commence. Donc, d'ici là, il pourra retourner dans son pays.
Oui, et Patrick Kassonga, je pense que vous nous suivez.
Oui, oui.
Vous avez suivi la déclaration de Lola Kisanga.
Oui, Laurent Tshisanga intervient, bien entendu, par rapport à ce confrère sénateur.
Oui, vous estimez que le Sénat est en train de tirer les draps du côté de Jean-Pierre Bemba?
Tirer les draps par rapport, bien entendu, à ce rapport de confrères, on pourrait dire oui. Mais moi, je m'inscris dans ce registre qui voudrait savoir que oui, ils sont en vacances. Jean-Pierre Bemba est à l'extérieur, mais est-il à l'extérieur parce qu'il revient d'une session où il va se reposer, ou bien, c'est comme vous venez de le relever tout à l'heure, que depuis qu'il est qu'il a été nommé sénateur, il n'a jamais participé à aucune session au Sénat. Et là, déjà, on sent que, par rapport à ses propos, comme il s'est confié à la presse portugaise, il se doute s'il pourrait venir, parce que le Sénat même le sent, qu'il cherche à reprolonger son séjour. Est-ce bénéfique pour la République démocratique du Congo avec le poids politique qu'a Jean-Pierre Bemba? C'est là où on pourrait se poser cette question par rapport à ces prolongements de séjour à l'extérieur dont peut-être ça commence un peu à inquiéter.
Oui, désiré, Jean-Pierre Bemba ne refuse pas de rentrer au pays. Il souhaite même que ses retours se fassent avant le 15 septembre prochain, jour de la rentrée parlementaire, mais il craint toujours pour sa sécurité. Votre commentaire?
Bon, mais je crois qu'il a droit de craindre pour sa sécurité, comme tout le monde, comme nous tous aussi. C'est un père de famille, il a une famille biologique, il a une famille politique, c'est un citoyen congolais qui a droit à sa sécurité. Sur ce point-là, moi je me dis, je suis tout à fait d'accord avec lui, il n'y a personne qui accepte de mourir, même si tout le monde veut aller au ciel. Mais deuxième chose, moi je pense que Bemba est toujours sénateur, il est sénateur, il n'a jamais perdu sa qualité de sénateur, parce que le fait qu'il se retrouve en dehors du pays, il a sollicité et obtenu l'autorisation du Sénat. Il a sollicité une prolongation, il l'a obtenue. Et maintenant, ça a expiré le 31 juillet, ça a coïncidé avec la fin de la session parlementaire. Maintenant, nous attendons le 15 septembre. Mais j'ai noté dans la déclaration de Lola Kisanga que autant de fois qu'il pourra solliciter cette disposition qu'il puisse rester à l'étranger, et s'il l'éprouve, je pense qu'on ne pourra pas le lui refuser.
Ça peut prendre tous les mandats.
Mais si ce médecin demande à ce qu'il reste là-bas pour être consulté davantage, soigné davantage, je pense qu'on ne peut pas, lui refuser cela. Mais d'autre part, comme a dit mon confrère ici, je pense que sa place est ici, au pays, dans le Sénat. Je pense que Bemba, on a besoin de lui ici pour faire un peu le contrepoids sur l'échiquier politique du pays, et je pense que ce serait une bonne chose s'il rentrait, comme lui-même a dit, il a besoin de continuer à exercer ici comme politicien, comme chef de l'opposition. Nous avons, on a besoin de lui ici au pays, et je pense que sa place est ici. Si les conditions sont réunies, ce serait une bonne chose qu'il rentre au pays.
Oui, les conditions là, sécuritaires, il les pose toujours. Et quand est-ce que ça va prendre fin?
Vous savez, ça me rappelle ici même dans cette maison, on avait un porte-parole de la Monique au début, là, Amadou Touré, qui disait qu'il est impossible de mettre un casque bleu derrière tout Congolais, c'est impossible, et donc les conditions de sécurité, c'est impossible de les remplir à 100%. Mais je pense aussi qu'on ne peut pas toujours faire prévaloir ces conditions de sécurité, parce qu'il y a des gens qui meurent aussi sans avoir été agressés. Mais il y a aussi les gens qui vivent, nous sommes là, nous vivons aussi, nous n'avons pas de policiers derrière nous, peut-être que nous ne représentons pas les dangers sur le plan politique, je le sais, mais je pense qu'on peut aussi nuancer cela, la sécurité ça ne peut pas prévaloir, toute la profession, toute la carrière qu'on veut exercer, je pense qu'on peut briser parfois toutes ces conditions sécuritaires.
Désiré, je ne vous lâche pas, les analystes estiment qu'il y a un problème politique, une solution politique aussi. Même Jean-Pierre Bemba, lui-même dans une interview accordée à l'agence Belga, les jours même de l'expiration de son séjour, a déclaré, je cite, « Il n'y a pas de volonté de la part de Kabila de régler ma situation. » Est-ce qu'une sorte d'accusation, un alibi ou comment? Je ne sais pas comprendre.
Mais ce qu'il faut éviter, c'est de personnaliser un peu les problèmes, que ce ne soit pas un problème entre le président Kabila et le sénateur Bemba. Je crois que le sénateur Bemba a quitté le pays parce qu'il devait aller poursuivre ses soins au Portugal. C'est la raison que nous connaissons. Alors aujourd'hui, en quoi le président de la République peut trouver une solution politique? Moi, je ne sais pas. Mais il est vrai que c'était quand même deux finalistes aux élections présidentielles. Bemba, c'est le leader du parti de l'opposition. Il est vrai qu'ils peuvent se consulter à tout moment pour des questions politiques. Mais si c'est dans le cadre de ces concertations informelles, il faut trouver une solution politique, je pense que ce sera la bienvenue, parce qu'il faut que Bemba rentre au pays. Mais essayer de personnaliser le problème, je crois que quelque part, ce n'est pas une très bonne chose, parce que moi, je reste convaincu que Jean-Pierre Bemba peut rentrer au pays, il sera protégé par sa base, par les gens qui croient en lui, par les gens qui font leurs convictions pour son action politique. Je pense qu'il peut vivre très bien ici.
Daniel Ndongidi, au MLC, on estime que le problème est politique et il faut une solution aussi politique.
Non, je pense que si je me fie à la déclaration du président de la République au cours de son dernier point de presse, le problème pour lui n'est pas politique. Le problème se trouve au niveau de la justice. Parce que quand, pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure, quand M. Neba dit que le président de la République, tout ça, non, c'est quand même le président de la République aussi qui a autorisé qu'il puisse quitter le pays dans des conditions sécuritaires valables. Mais pour revenir, comme l'a dit mon confrère, il ne faut pas personnaliser le débat. Je pense que le président a été clair. Le retour de M. Mbemba ne dépend pas de lui. Il faut rappeler que le procureur général de la République avait adressé une lettre très très valable au Sénat demandant la levée de l'immunité de M. Mbemba,
à laquelle on n'a pas encore répondu.
Donc, pour répondre à la question, le problème n'est pas politique, comme l'avait dit le président, c'est à la justice congolaise de s'en occuper.
Patrick Casson, vous êtes aussi d'avis que les problèmes de Jean-Pierre Bemba est politique?
Non, il n'est pas politique. C'est un problème juridique, mais aussi un problème de confiance. C'est effectivement, comme le disent les confrères, il ne faut pas personnaliser l'affaire. Il a eu la bénédiction du président de la République pour son voyage au Portugal, avant même que la lettre lui autorisant du Sénat n'arrive. Et revenons un peu en arrière, à chaque fois qu'il y a eu des crises, même pendant la transition, même pendant les élections, il y a toujours eu ce tête-à-tête Bemba Kabila, qui, après tout, débloquait la situation. Donc si peut-être Jean-Pierre Bemba, l'honorable sénateur, ne trouve pas pour cette fois comment se retrouver un tête-à-tête, mais je pense que du côté du président de la République, ça ne sera peut-être pas une solution politique, mais il pourra quand même le recevoir et redonner ce climat de confiance entre Congolais. Il n'y a pas plus lieu sûr que chez soi. Jean-Pierre Bemba doit revenir au pays. C'est ici, chez lui, c'est ici, donc il y a une force politique. Il doit s'investir pour le bien du Congo, mais il y a d'une vie politique. Je voudrais que, par moment, tout ce que vous dites peut soit vous gracier, soit se tourner contre vous. Donc, ça, vraiment, c'est pas un problème politique.
Patrick, mais pour ces retours-là, il sollicite aussi les concours de la communauté internationale, de l'Union européenne, et il sollicite même les concours de son pays.
Mais oui, son pays est là. Son pays a voté pour lui. Qu'on dit même qu'il ne soit pas élu président de la République, mais il y a quand même une frange de la population qui espère à son idéologie politique.
40%.
Oui, c'est ça. Donc c'est Jean-Pierre Bemba, le sénateur Jean-Pierre Bemba n'est plus n'importe qui. Et il y a la loi de l'opposition d'ailleurs qui, comme vous venez de on a tout suivi dans les deux chambres du Parlement, qui fait de lui un rang de ministre d'État. Donc tout ça, ce sont des avantages. Mais il y a aussi une autre réalité qui voudrait qu'en termes de sécurité, la communauté internationale l'a démontré. Il est allé au Portugal sous l'escorte de la MONUC. Il n'y avait pas un soldat du gouvernement congolais. C'était peut-être aussi pour ne pas le crisper dans tout ça. Donc je pense déjà qu'il y a une bonne volonté de tous les côtés, mais c'est à lui un peu de sortir, comme qui dirait, de cet état d'esprit d'insécurité qui revient tout le temps, même quand il n'y en a pas.
Désiré, faudra-t-il les concours de la communauté internationale et de l'Union européenne pour que ces retours-là soient effectifs?
Bon, personnellement, je ne suis pas de cet avis-là qu'il faut toujours impliquer les étrangers, même s'ils nous aident beaucoup hein, pour la reconstruction de notre pays, pour beaucoup de problèmes. Mais je pense, moi, je reste convaincu, si aujourd'hui Jean-Pierre Bemba rentre au pays et qu'il demande de rencontrer le lendemain ou dans quelques jours le président Joseph Kabila, je ne suis pas sûr que le président peut refuser. Et je pense que si les deux hommes se rencontrent, ils peuvent bien poser son problème et ils peuvent ensemble trouver une solution au lieu de le faire par la presse, par les médias interposés comme on l'a suivi ces derniers temps. Moi, je reste convaincu qu'il est possible entre les deux hommes de régler la solution que de recourir à la communauté internationale, ne fût-ce que pour cette étape. À moins que vraiment il n'y ait pas Joseph Kabila ferme la porte, bon, peut-être on peut faire recours à des intermédiaires, mais c'est des hommes qui ont vécu quand même, qui ont travaillé pendant 3 ans de la transition, ils se fréquentaient régulièrement.
À le moment où j'ai produit.
Moi, j'ai vu quand, lors de la première fois qu'on a attaqué la résidence de Bemba, enfin, attaqué, il y a eu affrontement entre les militaires de Bemba, enfin, les FARDC, comme il y a la garde de Bemba et la GSSP à l'époque. J'ai vu Joseph Kabila s'arrêter à la résidence de Jean-Pierre Bemba. Il est allé le voir. Mais pourquoi pas aujourd'hui, Jean-Pierre Bemba ne peut pas faire aussi de la sorte en rentrant au pays et aller voir le président de la République. Peut-être c'est aussi l'entourage, ça c'est autre chose aussi, c'est l'entourage des deux hommes aussi qui doit travailler dans le sens de les rapprocher davantage parce que on ne sait pas qui tire les ficelles
de
cette position.
Surtout les précarés.
Ah oui, bien sûr, il faut à un certain moment aussi que les faucons et les autres puissent quand même laisser la place aux gens qui veulent travailler ensemble.
Dany, l'implication de la communauté internationale, de l'Union européenne, est-ce que cette implication-là, elle est nécessaire, elle est importante?
Bon, avant de répondre à votre question, je reviens d'abord sur ce qu'avait dit tout à l'heure Patrick.
De toute façon, oui.
Et la loi sur la statue de l'opposition ne fait pas encore de M. Bemba le coordinateur de l'opposition. C'est vrai que c'est lui qu'on a en vue, mais il n'est pas encore. Ça, c'est une précision à apporter. Par rapport à la communauté internationale, je pense que M. Bemba, quand il a quitté le Congo, il a quand même aussi bénéficié du soutien de la communauté internationale, notamment la MONU, parce que c'est elle ici qui représente la communauté internationale. Bon, pour son retour, on a un peu spéculé que Louis Michel était là pour négocier son retour. Bon, je ne sais pas si c'est vraiment important. M. Bemba, même s'il aura affaire à la justice congolaise, jusque-là, il jouit encore de la présomption d'innocence. Il peut rentrer au pays, il y a des bons avocats ici, même il peut avoir des avocats internationaux qui peuvent le défendre valablement et être innocenté par rapport à la justice congolaise. Parce que je pense que le problème se trouve à ce niveau-là, même si on ne le dit pas clairement. Le problème, c'est la justice, c'est juste parce qu'il y a un mandat d'arrêt contre lui lancé par le procureur général de la République. Alors, pour contourner la justice maintenant, on voudrait une solution politique. C'est que le président de la République ne veut pas, si je me fie à sa déclaration lors de sa conférence de presse, c'est la justice qui doit s'en occuper. Et M. Bemba doit faire face non seulement à la justice de son pays, mais aussi internationale, peut-être, parce que la Cour pénale internationale va ouvrir bientôt, je ne sais pas si elle a déjà ouvert, un dossier sur les crimes commis en Centrafrique, où M. Bemba est également cité. Donc, d'une manière ou d'une autre, il sera confronté à la justice.
Soit en dehors du pays ou
au pays. Donc, c'est mieux pour lui de rentrer chez lui au pays, de se présenter devant sa justice, parce qu'il peut être innocenté, parce que jusque-là, on n'a pas des preuves formel que M. Bemba serait auteur de ceci ou cela, de tout ce qui lui est reproché.
Oui, Patrick, nous tendons vers la fin de cette émission. Comment régler enfin ces problèmes, Jean-Pierre Bemba?
Oui, tout part, comme vient de dire le confrère, de préciser, il est de lui, Jean-Pierre Bemba. Il dit qu'il veut bien rentrer au pays, qu'il vienne au pays. Et je pense qu'il y aura bien des interventions. Il a cette présomption d'innocence par rapport à ce dossier des 22 mars où on a été accusé de trahison, mais il doit venir. Il faudrait que ce dossier soit traité ici au pays. Cela va de son avantage et de son crédit. Et bien entendu, du côté du président de la République et du gouvernement, eh bien, celui-là, c'est Jean-Pierre Bemba, c'est un fils du pays. il doit être bien entendu sécurisé quand il vient, parce que cela, il va aussi du crédit des gouvernants. Donc il doit être protégé, mais bien entendu, au regard de tout ce qui l'entoure, voir comment on peut aller échelonnellement avec tous ces dossiers qu'il a.
Oui, Désiré, un peu de mots seulement, comment régler définitivement ces problèmes de Jean-Pierre Bemba?
Moi, je pense qu'il faut que Jean-Pierre Bemba rentre au pays et régler les problèmes ici au niveau du pays.
Voilà, tribune de la presse de ce vendredi, c'en est ainsi fini. Merci à nos amis qui étaient dans ces studios. Merci à vos auditeurs de nous avoir suivis. Élie Coutet a préparé cette émission, Nadine Foula l'a réalisée, et héritier Sidiakala était à la prise de son et mise en onde.
Okapi, okapi.